Fait d'actu avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans C'est d'actu. Au programme, on abordera la question du harcèlement scolaire avec une institutrice en hôpital qui a remporté le prix Non au harcèlement avec ses élèves. Elle sera accompagnée d'un formateur du programme phare qui lutte contre le harcèlement. On abordera aussi cette question à travers le prisme du théâtre avec la compagnie Déjà et Sébastien Lasnec, son directeur, et leur adaptation en plateau de la pièce Tous les jours. Mais avant cela, on fait état de la pauvreté et de la précarité en France avec le 18e baromètre réalisé par Ipsos pour le Secours Populaire. Pour en parler, nous sommes avec Vincent Bourgeois, directeur du Secours Populaire pour la Fédération de la Sarthe. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on commence sans plus attendre cette émission avec notre premier invité.
Radio Alpa, l'alternative.
Alors, Valentin Bourgeois, vous êtes directeur du Secours Populaire français dans la Fédération de la Sarthe. Vous venez nous parler de l'étude réalisée par Ipsos qui fait état de la pauvreté et de la précarité en France. C'est le 18e baromètre qui est publié. Alors, on va détailler ce rapport pour décoder un peu tous ces chiffres qui témoignent d'une situation bien réelle. L'étude a été réalisée sur un échantillon de près de 1000 personnes représentatives de la population française âgée de 16 ans et plus. Déjà, est-ce qu'on peut préciser cette distinction qui est faite dans l'intitulé de l'étude entre pauvreté et précarité?
Alors, la distinction, ça va être... La pauvreté, c'est donc un... C'est calculé par rapport au revenu médian. Donc, c'est une position par rapport au revenu médian.
D'accord.
Alors que la précarité, c'est plus un état dans lequel on risque de basculer. Disons qu'un événement de vie se produit et on risque de basculer dans la pauvreté. Voilà, c'est ça la différence.
D'accord. Alors, le rapport ouvre sur un chiffre assez révélateur d'un sentiment d'augmentation de la pauvreté en France. Puisque le seuil de pauvreté subjectif moyen, c'est-à-dire en dessous de quel revenu une personne seule peut être considérée comme pauvre, donc ce chiffre, il a atteint cette année les 1396 euros, soit quasiment le SMIC net. Alors qu'est-ce qu'il nous montre concrètement ce chiffre?
Tout simplement qu'aujourd'hui, travailler ne suffit plus pour être protégé face à la précarité, voire même à la pauvreté. C'est effectivement un chiffre qui est assez alarmant et qui montre aussi que le coût de la vie ayant augmenté, on a subi une inflation ces deux dernières années extrêmement importante, le coût de la vie est tel qu'aujourd'hui, même quelqu'un qui travaille 35 heures en CDI au SMIC, boucle extrêmement difficilement les fins de mois.
Et alors, c'est une situation qui est nouvelle en France ?
C'est une situation qui n'est pas nouvelle, mais qui se dégrade. La précarité, elle s'ancre profondément dans notre pays. C'est-à-dire que les personnes qui étaient dans une situation de pauvreté ou de précarité le restent durablement et que tout un pan entier de la population est fragilisé aujourd'hui et risque de basculer.
Alors, parmi l'échantillon, si 48% d'entre eux déclarent pouvoir mettre de côté, 16% déclarent quant à eux vivre à découvert. Est-ce que ce chiffre, lui aussi, il est en hausse?
Ce chiffre, il est stable. C'est un chiffre qui montre encore une fois, vu à quel point il est élevé, la fragilité de la situation. En fait, on a des indicateurs qui sont soit globalement à la hausse, soit stables, à un niveau particulièrement élevé, c'est-à-dire qu'en fait, on a atteint ces niveaux très élevés pendant la crise du Covid et qu'on n'a pas connu d'accalmie depuis et l'inflation n'a rien arrangé.
Alors un chiffre en tout cas qui ne fait qu'augmenter, c'est le pourcentage de la population qui estime avoir connu ou avoir été sur le point de connaître une situation de pauvreté. Ce chiffre a atteint les 62%. Est-ce à dire que plus de la moitié de la population française a côtoyé de près la pauvreté?
Oui, presque les deux tiers en réalité. Et c'est assez frappant et je pense que ça illustre parfaitement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que aujourd'hui c'est un pan entier de la population, 62% c'est énorme, qui risque de basculer, qui a vu éventuellement quelqu'un de sa famille, parmi ses amis, ses proches, basculer et qui se sent fragilisé par la situation aujourd'hui, qui a vraiment des difficultés à boucler les fins de mois et surtout qui est obligé de se priver. ici et là. On peut se priver de vacances, de sorties culturelles, on peut revoir le budget
Noël.
C'est
ce que j'allais vous demander. En fait, sur quelles dépenses concrètement se posent ces difficultés ?
Je crois que c'est à peu près partout, mais comme n'importe qui, on fait des calculs. Quand on fait son budget, on restreint d'abord ce qui nous semble être, disons, du luxe ou du plaisir. Ensuite, on restreint ce qui va être permettre de vivre correctement, mais pas forcément de survivre. Et puis après, on arrive à attaquer ce qui est relatif aux conditions de survie, c'est-à-dire le logement, l'alimentation, la santé, etc.
Est-ce qu'il y a des catégories de la population qui sont plus touchées par ces difficultés ?
Oui. Clairement, aujourd'hui, être une femme seule et élever ses enfants, c'est un facteur de risque et d'entrée dans la pauvreté. On sait aujourd'hui que les femmes, par exemple, qui divorcent, sont beaucoup plus à même de basculer dans la pauvreté. C'est assez terrible à dire, plus que les hommes aujourd'hui en France. Et puis aussi, par exemple, le fait d'habiter dans les zones rurales, on remarque, et notre étude est s'arrêtée notamment sur la question des personnes habitant dans les zones rurales et périurbaines. On remarque par exemple que 57% des personnes habitant en zone rurale ont des difficultés à partir en vacances par rapport à 48% du reste de la population. Donc c'est ce genre de chiffre qui doit nous alarmer aussi sur la situation dans les zones rurales.
Alors ce que nous apprend l'étude aussi, c'est que les services sont également difficiles d'accès, y compris certains services censés être accessibles à tous, comme les services sociaux, l'éducation ou encore les services de santé, puisqu'un Français sur trois déclare accéder difficilement à ces services. Alors pourquoi ces services, qui a priori n'exigent pas de posséder des revenus importants, sont-ils tout de même eux aussi concernés par des difficultés d'accès ?
Alors, tout simplement parce que, je vous donne un exemple, si vous avez une mutuelle qui vous rembourse bien, c'est que globalement, vous êtes en capacité de la payer parce que ça se paye. Et si vous n'avez pas les moyens de vous payer une mutuelle correcte, entre guillemets, forcément, vous avez des dépassements et vous ne pouvez pas forcément vous les offrir, donc vous ne pouvez pas vous soigner correctement. Et aujourd'hui, en France, on a malgré tout, malgré un système qui protège, qui assure un minimum, il y a quand même des inégalités et des inégalités qui se développent.
Maintenant, il faut noter que cette étude est basée sur des critères subjectifs. Comment est-ce qu'on mesure en fait la fiabilité de cette étude ?
Alors, tout simplement, c'est une étude qui est réalisée dans les critères de n'importe quelle étude. C'est pas le Secours populaire qui a fait l'étude, c'est un institut de sondage. Effectivement, c'est du déclaratif, mais c'est justement ce qu'on voulait juger, parce qu'il y a le seuil de pauvreté, il y a le nombre de personnes qui vont être accueillies à l'aide alimentaire. Ça, c'est des chiffres mesurables. Mais il y a aussi le ressenti des personnes, parce que chacun d'entre nous, dans notre quotidien, on est amené à faire des choix, des arbitrages, à se priver plus ou moins en fonction de notre situation. Et c'est ça qu'on voulait justement regarder précisément. C'était aussi se dire le niveau de fragilité, il se mesure aussi par rapport au ressenti des personnes qui connaissent leur situation et qui savent si elles sont en mesure ou non de garder leur emploi sur le long terme. Est-ce que leur situation de santé, parce que par exemple le fait d'avoir un problème de santé est un facteur très important de basculement dans la pauvreté, et ce de manière durable.
Et alors, du coup, est-ce qu'il existe en fait des critères prédéfinis de la pauvreté qui permettraient de l'établir de manière certaine ?
Oui, la pauvreté, elle est mesurée par rapport au revenu médian. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est donc mesuré et quantifiable. Donc on peut à la fois se baser sur ces indicateurs-là, tout en complétant l'analyse par ce qu'on fait nous, c'est-à-dire une analyse du ressenti des personnes.
Alors, Michel Barnier a proposé d'augmenter le SMIC de 2% d'ici novembre et de réserver la hausse d'impôts aux plus fortunés. Est-ce que ces mesures vous semblent suffisantes pour faire face à cette augmentation de la précarité que semble indiquer l'étude Ipsos ?
Je crois que l'inflation prévue pour l'année prochaine, elle est de 2,2%. Si on met au regard cette augmentation de l'inflation sur l'année prochaine, le risque, c'est que finalement, l'augmentation du SMIC soit en dessous de l'inflation. Donc ça veut dire perdre du pouvoir d'achat pour les personnes, pour des personnes qui sont déjà fragilisées. On l'a vu tout à l'heure, il y a seulement 2 euros entre le seuil de pauvreté perçu et puis le SMIC. Donc il faut faire très attention, et moi j'appelle les pouvoirs publics à faire très attention à toute mesure qui viendrait fragiliser encore plus une population qui, on l'a vu, est déjà extrêmement fragilisée, et tout un pan de la population qui risque de basculer si une mesure maladroite devait être prise.
Alors, des économies sont également annoncées sur les dépenses publiques, un effort de 40 milliards d'euros, ce qui est inédit sous la Ve République. Est-ce que vous craignez que cette mesure aggrave les difficultés des personnes déjà en situation de pauvreté ?
Je vous avoue que je ne connais pas le détail de ces mesures-là. Moi, ce que je dis dans mon rôle d'acteur associatif, c'est que c'est aux acteurs gouvernementaux, aux pouvoirs publics, de prendre leurs responsabilités. Nous, on a dressé un tableau, on l'a transmis au pouvoir public, et maintenant c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Si ils souhaitent vraiment faire en sorte que la pauvreté et la précarité reculent dans notre pays, ils ont les clés en main, ils peuvent prendre des décisions. En tout cas, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas.
Il y a pourtant ce qui semble être un effort de la part du gouvernement Barnier, qui a décidé d'abandonner l'objectif de réduire le déficit à 3% d'ici 2027, d'envisager plutôt un déficit à 5% pour éviter justement des économies trop drastiques. Est-ce que ça vous semble être un geste adressé aux populations les plus précaires ?
Je pense qu'on en mesurera les effets. Nous, on n'est pas des commentateurs de la vie politique, on est des acteurs de terrain. De toute façon, le Secours populaire, quelles que soient les politiques menées, sera présent pour aider les personnes, sera présent pour mettre en mouvement le plus grand nombre de bénévoles, de donateurs, pour organiser la solidarité populaire. Après, ce sera, comme je le disais tout à l'heure, au gouvernement, au pouvoir public en général, de prendre leurs responsabilités, tirer les conséquences de leurs actions et de leurs politiques.
Alors du coup, de quelle manière le Secours populaire acte les résultats de cette étude ? Quelles sont vos actions ?
Alors nous, nos actions, ça va être d'appeler déjà à la mobilisation générale, à tous ceux qui ont un petit peu de temps. Alors il y a pas c'est pas forcément être bénévole au Secours populaire, c'est pas forcément donner plusieurs journées par semaine, ça peut être donner quelques heures dans l'année, ici sur une action de collecte, là sur une action de solidarité, là relayer nos publications sur les réseaux sociaux par exemple. Chaque action compte, et je pense que c'est important que en tant que citoyens, on puisse tous contribuer à ce mouvement de solidarité. Je pense notamment dans les zones rurales. Nous, on a une antenne mobile, le Solidaribus. On va chercher à accroître le nombre d'antennes pour pouvoir toucher plus de monde. Notamment, on a parlé des zones rurales et des difficultés qu'elles connaissent. Je pense qu'il faut qu'on puisse s'intéresser à toutes les personnes qui connaissent des difficultés liées à l'accès aux vacances, à la possibilité de pouvoir aller au travail en voiture, mettre du carburant tout simplement dans le réservoir. Il y a beaucoup à faire dans ces zones-là. On a encore plusieurs zones du département qu'on ne couvre pas. Et donc, pour ça, on a besoin à la fois de bénévoles et puis aussi de donateurs.
D'accord. Parce que concrètement, est-ce que le Secours populaire est en mesure aujourd'hui de mobiliser plus de moyens qu'elle ne le fait déjà ?
Les moyens, c'est pas quelque chose qui est toujours on n'a pas toujours le même budget, on n'a pas toujours le même nombre de bénévoles. Ça dépend de la mobilisation des personnes, tant des donateurs. Et quand je dis donateurs, ça peut aussi bien être des particuliers, vous et moi, comme ça peut être aussi des entreprises qui peuvent rejoindre notre réseau solidaire, financer des projets, accompagner, proposer à leurs collaborateurs de faire une collecte. On arrive dans la période de Noël, il y a beaucoup d'entreprises qui font ça pour le Secours populaire, donc c'est très apprécié. Ça permet qu'il y ait plus d'enfants qui aient un jouet tout simplement à Noël. Ça permet de faire en sorte que les colis alimentaires soient plus garnis, parce qu'aujourd'hui, plus on a de monde accueilli, plus on a de personnes à aider, bah forcément, si on n'a pas plus de denrées, si on n'a pas plus de moyens pour permettre l'accès à la culture, aux vacances, à l'accès aux droits, forcément, c'est une solidarité qui recule. Et donc, il y a une nécessité aujourd'hui pour le Secours populaire à avoir à la fois plus de bénévoles qui rejoignent et aussi des moyens financiers qui évoluent.
Est-ce que pour finir, vous pouvez nous rappeler les infos pratiques concernant le Secours populaire et où on peut consulter le 18e baromètre de la pauvreté et de la précarité en France?
Alors, tout simplement sur notre site internet, secourspopulaire.fr/72, donc ou sur un moteur de recherche, vous tapez Secours populaire Sarthe et vous avez les actualités du Secours populaire sur votre territoire. Et puis, on a aussi mis en ligne tous les résultats du baromètre et puis notre analyse complète.
Merci Valentin Bourgeois.
Merci à vous.
Merci d'être venu nous aider à décoder les chiffres de cette étude. À bientôt sur notre antenne. On se retrouve dans quelques instants pour aborder la question du harcèlement scolaire à travers le prix non-harcèlement, mais aussi à travers une pièce de théâtre tous les jours. Ce sera dans quelques instants. Tout de suite, on écoute Soan, Next Time.
J'ai vendu la santé de mon dos en me pliant durant des semaines à grand renfort de bien sur chef. Je suis là pour ça comme pour le reste, l'aiguille des minutes se fout de ma gueule. Si la vie est une pute, alors pourquoi je me sens si seul? J'ai stoppé là, c'en était trop et fraudé le métro pour la peine avec en mon cœur l'allégresse de me foutre de ça tout comme du reste. Et depuis je me suis fait marginal. Je me laisse pousser les rêves et je cours après les étoiles quitte à me faire mal. J'crame la vie, c'est pas bien grave. Jusqu'à présent les effluves n'ont pas fait tomber le déluge. Next time je la marre. J'crame la vie, c'est pas bien grave. Jusqu'à présent les effluves n'ont pas fait tomber le déluge. Next time je la marre. J'aime tant chanter l'amour, ma mère, même s'il y a plus tant de choses que j'aime. Si j'ai des bâtons dans les roues, qu'aurais pu guérir d'un je t'aime même. Nuancé d'infos que tu grandisses, mon fils, avec affection prononcée sur le ton propice. J'aime tant chanter l'amour, mon père, même s'il y a tant de choses que je déteste. Et tant d'humains à qui la peste irait comme une veste en velours. Mais putain, quand est-ce que tu me dis que t'es fier de ton sale cabochard de mioche où t'attends qu'on l'enterre quitte à te faire taire. Et j'en ai fait des trucs foireux, de tout mon élan vers l'aval, de peur de ne valoir que dalle à poil. Et devant tous ces gens, mes excuses à mes actes manqués. Je sais bien qu'un jour je manquerai pas de me terminer, quitte à pécher. J'crame la vie, c'est pas bien grave. Jusqu'à présent les effluves n'ont pas fait tomber le déluge. Next time je la marre. J'crame la vie, c'est pas bien grave. Jusqu'à présent les effluves n'ont pas fait tomber le déluge. Next time je la marre. T'arrives en ce théâtre, fais gaffe, y'a des coups de vis à t'en faire péter les boulons. Mais peut-être qu'on se bâtira un monde à nous en mode tarsique et on mettra la clé au clou, libre et debout. Mais pour l'instant je me casse les dents, c'est récurrent. J'crame la vie, c'est pas bien grave. Jusqu'à présent les effluves n'ont pas fait tomber le déluge. Next time je la marre. J'crame la vie, c'est pas bien grave. Jusqu'à présent les effluves n'ont pas fait tomber le déluge.
Radio Alpa, l'alternative.
De retour dans C'est d'actu et on aborde à présent le harcèlement en milieu scolaire. D'abord à travers une pièce de théâtre qui fait le procès du harcèlement. Bonjour Sébastien Laznec.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur et comédien, responsable du groupe Déjà. Mon prédécesseur Robin Hulin, vous avez déjà reçu dans C'est d'actu pour parler de votre pièce Tous les jours qui met en scène le procès du harcèlement scolaire. Cette pièce jusqu'ici jouée dans les établissements scolaires a depuis été développée en une version plateau. Alors, est-ce que pour commencer, vous pouvez nous présenter le groupe Déjà et ses principaux axes de travail ?
Eh bien, groupe Déjà, c'est une compagnie de théâtre qui est implantée au Mans et qui tourne dans, un peu au national, dans toute la France. Ça a à peu près 12-13 ans, groupe Déjà. Avant, ça s'appelait autrement. Moi, ça fait quand même longtemps que je fais du spectacle, une trentaine d'années. Et on travaille beaucoup sur des... Déjà, c'est des créations. On ne parle pas de textes d'auteur, on ne parle pas de pièces écrites. Et on questionne pas mal nos liens. En fait, on a monté un spectacle sur nos liens d'amitié, on a monté un spectacle sur nos liens de fratrie. Sur nos liens familiaux, et là le prochain qui sort dans un mois et demi est sur nos liens de couple.
Ceux
qui nous nouent, c'est ça. Et puis en parallèle de ça, depuis quelques années, on a aussi des spectacles à visée pédagogique, on va dire, dont fait partie tous les jours le spectacle sur le harcèlement scolaire, mais qui sont pas de notre fait à chaque fois. Ça résulte de commandes qu'on nous a fait.
D'accord.
Puisqu'on répond souvent à des commandes d'écriture sur mesure, des interventions sur mesure, des spectacles sur mesure pour des événements ou autres.
Et donc tous les jours, et dans ce cas-là ?
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un bahut, un collège à Saumur qui nous avait demandé si ça nous intéressait d'écrire quelque chose sur le harcèlement scolaire. On a évidemment dit oui, parce que la question nous intéressait. Puis on a réfléchi à une idée, puis on a trouvé cet axe de faire le procès du harcèlement scolaire. D'accord. Et puis la commande, elle n'a pas été honorée pour des questions de budget. Mais on s'est dit que cette idée était pas mal à creuser, okay. et on a monté le spectacle quand même.
Alors en tout cas, il y a une nouvelle version plateau. On va parler un peu de la manière dont on adapte une pièce d'abord en les murs, puis en plateau. Est-ce que déjà, vous pouvez nous rappeler quand est-ce que vous la jouez prochainement ?
Eh ben, la version plateau, elle est le 18 octobre à Arnage, au Mans. Et puis on a une date mardi la semaine prochaine où on est dans un collège ou un lycée à Saint-Calais.
Donc l'idée, c'est de faire le procès du harcèlement scolaire, vous l'avez dit. C'est-à-dire concrètement.
Ben, habituellement, un procès, on juge des personnes
qui ont
commis des faits, on juge pas des concepts. Justement, c'était ça qui nous intéressait, c'était de juger un concept comme on pourrait juger la méchanceté ou la guerre ou la bêtise. Voilà. Là, ça nous paraissait plus intéressant pour aborder la question du harcèlement scolaire de juger le harcèlement scolaire. Un procès, parce que dans un procès, évidemment, il y a des gens pour... il y a des avocats, il y a des avocats des parties civiles et des avocats de la défense, ce qui permet de trouver des circonstances atténuantes, de se poser des questions, de savoir pourquoi ça existe, qu'est-ce qu'est l'origine de ça, pourquoi on en arrive là. Et ça nous intéressait parce que dans nos créations, on aime bien que tout soit pas noir ou blanc, comme dans la vie, quoi. Donc le procès permettait ça, et puis ça permettait aussi de pas s'intéresser à un cas isolé de harcèlement d'une personne vis-à-vis d'une autre personne à un moment donné, dans un lieu donné. On peut parler du harcèlement depuis l'invention de l'école, en fait, et dans tout lieu, dans tous endroits, enfin en tout cas en France.
Alors ceci dit, le harcèlement ne va pas être présenté par un acteur qui fait office d'allégorie. C'est un peu plus compliqué que ça, la façon dont c'est représenté, je crois.
Oui, on a trouvé drôle et opportun que le harcèlement scolaire se présente pas à son propre procès.
D'accord.
Bon, ce qui nous arrangeait, parce que c'est toujours compliqué de jouer le harcèlement scolaire. On avait bien pensé à faire un personnage un peu difforme, un peu monstrueux, sans vraiment de visage, pour que chaque spectateur puisse mettre le visage qu'il veut sur ce harcèlement scolaire. Et puis on se dit non, mais en fait, on va mettre personne sur la chaise, et puis insister sur le fait qu'il n'est pas venu, parce que peut-être qu'il a carrément honte d'affronter le regard de ses victimes, quoi.
Alors, Tous les jours a d'abord été présenté hors les murs, on en a parlé, dans des établissements scolaires. Quel retour est-ce que vous aviez de ces représentations ?
Ben, ça se passe toujours vraiment bien, parce que on a créé le spectacle en mars 2022, donc il y a 2 ans et demi, il n'a jamais cessé de tourner, sauf pendant les vacances, évidemment. Et puis on doit en être à 140, 150, 150 dates là, on n'a pas de retour après. Être passé des semaines ou des mois plus tard par les équipes pédagogiques dans les bahuts, parce qu'ils n'ont pas que ça à faire. Ils ont beaucoup de boulot déjà, je pense.
Il n'y avait pas des débats organisés avec les élèves après ?
Si, il y a toujours. Ouais. Si, c'est ça, j'allais y venir. C'est que quand on est sur place, au moment où on joue, il y a des réactions pendant.
D'accord.
Évidemment, des réactions de rire, parce qu'on cherche aussi à faire rire là, avec ce spectacle. Ce n'est pas juste pour plomber l'ambiance. Mais il y a des réactions de gens qui sont touchés, peut-être même certains un peu trop. Donc ça permet aux équipes pédagogiques d'identifier un peu des choses. Ou alors il y en a qui font un peu trop les malins, en fait, qui sont en refus. Donc ça permet aussi d'identifier d'autres choses, quoi.
D'accord, ça marche. Et pourquoi vous avez décidé alors de monter une version plateau, si ça marchait bien en version hors les murs ?
Ben, parce que on s'est dit que ce problème du harcèlement, ce qu'on veut dire dans le spectacle, c'est que c'est un problème de société, c'est un problème global, et que c'est pas les enfants et les adolescents qui vont pouvoir le résoudre, ce problème. Évidemment, c'est intéressant que qui voit le spectacle et que des harceleurs ou des harcelés le voient. Mais avant tout, ce qui nous paraît indispensable, c'est que ce soit les spectateurs du harcèlement qui voient le spectacle, puisqu'on c'est un peu l'idée du spectacle, c'est que sans spectateurs, il n'y a plus de harcèlement dans les bahuts. Et puis c'est surtout que c'est en fait les adultes qui ont le pouvoir de changer les choses, qui ont les clés pour faire évoluer la société. Et si la société n'évolue pas, le harcèlement scolaire, il n'évoluera pas non plus.
Et alors, comment se présente la pièce scéniquement? Est-ce qu'il y a des particularités de mise en scène?
La particularité, le parti pris de mise en scène, c'est qu'on est deux à jouer 19 personnages,
oui.
Ce qui est quand même quelque chose.
C'est une prouesse déjà.
Ouais, c'est ça, il y a une performance qui nous intéresse à nous en tant que comédiens, puis on pense que ça peut intéresser aussi les spectateurs de voir ce petit jeu de changement de personnage. Et donc c'est 19 sweatshirts à capuche de couleurs différentes qui nous permettent de switcher d'un personnage à l'autre. Et puis sinon le décor, c'est un décor d'imaginaire collectif de tribunal, en tout cas pour la version plateau. Donc on a... Des tables en bois qui rappellent un peu ce qu'on peut trouver dans tous les tribunaux. Et puis on a un grand porte-manteau derrière qui tient nos 19 sweatshirts. Et puis on a aussi une trentaine de suites qui pendent, qui pèsent au-dessus du centre de ce tribunal, qui sont pendues à différentes hauteurs et qui sont de différentes couleurs et qui évoquent un peu toutes les victimes.
Ouais. Et alors, sur quoi vous êtes basé pour écrire cette pièce? Est-ce que vous avez utilisé une certaine documentation?
Oui, carrément. C'est un sujet qu'on ne maîtrise pas du tout. Donc, on est une compagnie de théâtre, on est auteur, comédien, metteur en scène. Et le harcèlement scolaire, quand on a commencé, on pensait bêtement, comme tout le monde, que le harceleur ou la harceleuse était méchante et que les autres étaient gentils. Non, c'est pas ça. Hein. C'est beaucoup plus complexe. On pensait que le harceleur, fallait le virer. C'est pareil, il y a faute là. On fait pas ça, on ne fait plus ça, ça ne marche pas. Et donc, on s'est documenté, on a regardé énormément de films, de documentaires, on a lu des bouquins, puis on a surtout rencontré des acteurs qui connaissent le problème. On est allé dans les établissements scolaires rencontrer des principaux, des CPE, des profs, des infirmiers. On a rencontré des psys, des gens qui ont été harcelés, des gens qui sont encore harcelés. C'est une période qui était un peu compliquée, c'est un peu difficile cette étape dans notre création, tout ce moment de documentation. Après, ça a été un peu plus léger quand on a commencé à écrire et puis pouvoir mettre aussi de l'humour.
Mais alors du coup, comment vous avez choisi l'angle avec lequel vous alliez traiter de la question du harcèlement? Parce que vous avez bien précisé qu'il ne s'agit pas de faire du manichéisme, mais du coup, le risque inverse, c'est le relativisme, en fait. Ce serait celui d'excuser le harceleur parce qu'après tout, c'est qu'une personne comme les autres, etc.
Non, puisque en fait, l'avocat de la défense qui défend donc le harcèlement scolaire dit que enfin, comment dire les choses grossièrement, que s'il en arrive à être à harceler, c'est parce qu'il y a eu, c'est quelqu'un qui est en souffrance, peut-être tout autant que celui qui est victime, et qu'il faut le soigner, essayer de le comprendre plutôt que de le foutre à la porte, puisque ça recommencera ailleurs. Voilà, c'est ce genre de défense. Et puis la défense aussi, c'est de dire que le harcèlement scolaire, il est à l'image de la société, qu'on harcèle aussi dans nos entreprises, dans nos familles, dans nos espaces publics. Donc quand ça cessera, peut-être que le harcèlement scolaire cessera aussi. On est un petit peu sur ce terrain-là, quoi.
Quel ton est-ce que vous adoptez? Vous avez dit que vous passiez par l'humour.
Oui.
D'accord. Et de quelle manière?
Parce que comme on joue des personnages qui peuvent avoir un prisme qui soit humoristique, enfin certains en tout cas, par leur façon de parler, de voir les choses, qu'est-ce que je pourrais citer, par exemple, à un moment on s'est dit tiens, il faudrait faire intervenir le CPE d'un bahut. Et on a rencontré parmi les gens qui nous ont aidés une CPE qu'on a trouvé formidable, qui est sur Le Mans, et qu'on a considéré étant une super CPE, parce que hyper engagée, hyper investie. Et donc on s'est dit, mais faisons ça au premier degré, faisons venir un super CPE avec sa cape, et voilà, qui arrive du ciel. Et c'est ce genre de biais qui peut amener de l'humour, quoi.
Est-ce que vous avez découvert des problématiques sur la transmission de la pièce hors les murs à la pièce en plateau? Quelles ont été les principales problématiques à gérer, en fait, pour cette adaptation?
Non, il n'y a pas eu de problématique. Ça s'est fait assez simplement. On l'a créé il y a un an en partenariat avec les Quinconces et les Spals. Là, on a joué au Petit Théâtre des Quinconces sur 4 soirées en novembre 2023. Et on est resté là-bas pendant une bonne semaine pour y installer le décor, pour y travailler la création lumière. Et puis, nous, ce qu'on joue, ce qu'on interprète, la mise en scène, c'est la même en hors les murs et en plateau. Donc, il n'y a pas eu vraiment de soucis.
Il y a la disposition du public peut-être qui change, non ?
Non, même pas, parce que en hors les murs, les spectateurs sont tout autour du dispositif. Ouais. Il y a des spectateurs qui sont à la place des jurés, il y en a qui sont sur les côtés, il y en a qui sont en face, évidemment. Et on reproduit ça sur le plateau aussi. On met des gens toujours avec nous, tout autour
D'accord.
de nous.
Ouais. Okay.
Ouais, ouais.
Ok, donc c'est vraiment comme la version hors les murs, mais sur une scène. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Performer dans un théâtre, est-ce que ça apporte quelque chose quand même de plus solennel, de plus grave, peut-être plus officiel, je ne sais pas.
Bah, c'est une rencontre qui est plus en lien avec le théâtre, puisque du coup, les gens qui viennent voir le spectacle se rendent dans une salle de spectacle, alors que quand on joue dans la cantine du lycée ou dans la salle de perme du lycée ou du collège, on intervient directement là où sont les élèves, donc c'est pas la même démarche. Donc oui, il y a un côté un peu plus officiel,
ouais.
Quoi. Enfin, ouais.
On est dans un espace plus grand,
ouais.
Il y a l'obscurité, il y a le côté institutionnel aussi du théâtre face au public, etc. C'est pas la même chose que de jouer dans une classe d'élèves quand même.
Non, c'est pas le même rapport, c'est sûr. Faudrait poser la question des élèves qui l'ont vu dans les deux espaces. Mais,
En tout cas, en tant que comédien, c'est pas quelque chose qui vous marque particulièrement.
Non, les deux versions sont assez proches finalement. Effectivement, on voit beaucoup moins les spectateurs dans la version plateau. C'est peut-être la seule chose qui diffère, mais sinon, okay. C'est la même écoute, c'est les mêmes réactions.
Ok, ça marche. Bien, merci beaucoup, Sébastien Lasnec, responsable du groupe Déjà. Merci de nous avoir parlé de votre pièce Tous les jours, adaptée depuis votre pièce sur les murs.
Merci.
On finit cette émission toujours pour parler du harcèlement scolaire avec une enseignante en hôpital et un formateur du programme phare. On les écoute tout de suite.
Radio Alpa, l'alternative.
Bonjour Sophie Loisance et Pascal Montagne.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Pascal Montagne, vous êtes formateur phare, un programme de lutte contre le harcèlement à l'école. Alors on en parlera plus en détail. Et Sophie Loisance, vous êtes enseignante à l'école de l'hôpital du Mans. Vous avez remporté avec vos élèves le prix Non au harcèlement en juin dernier. Alors vous êtes venu jusqu'à nous pour nous parler de ce sujet qui est le harcèlement en milieu scolaire. Pascal Montagne, pour commencer, il faut préciser que vous êtes spécialisé dans le harcèlement dans le premier degré, c'est-à-dire de la maternelle à la primaire. Ça paraît a priori un peu jeune, 5, 8, 10 ans pour être victime ou coupable de harcèlement scolaire. Comment est-ce que ce harcèlement il se manifeste ?
Alors, au niveau des élèves du premier degré, ce sont surtout des interactions du fait du groupe entre les élèves qui peuvent conduire effectivement à ce que nous, on définit comme harcèlement. En règle générale, si on intervient suffisamment tôt et qu'on prend les choses en main, la plupart des situations s'arrêtent directement. On n'a pas de cas avéré dans le premier degré en Sarthe de harcèlement comme on le connaît en tant qu'adulte. Donc tout l'intérêt du programme et du plan qui a été mis en place par le ministère.
Et c'est quand même beaucoup d'élèves du coup qui sont concernés par le harcèlement sous une forme ou une autre du coup.
Alors en termes de nombre, c'est difficilement chiffrable. On a eu, dans un premier temps, suite aux annonces gouvernementales, bien sûr, beaucoup d'appels sur la plateforme du 30-18, et je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais concrètement, en termes de harcèlement avéré, encore une fois, c'est vraiment très, très, très peu.
D'accord. Alors, vous travaillez pour le programme PHARE, P-H-A-R-E. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce programme ?
Tout à fait. Donc, le programme PHARE est un plan qui est un plan à la fois de prévention et de lutte contre le harcèlement scolaire à l'école.
D'accord.
Voilà.
Et du coup, quelles sont vos actions concrètement pour ce programme ?
Alors, pour ce programme, donc, il y a une équipe de formateurs qui a été au niveau national, mais nous, au niveau académique, mise en place. Et au niveau de notre département de la Sarthe, il y a donc deux référentes. Une référente, Mme Gaëlle Lemoulac, sur le premier degré, et Mme Karine Couteau, sur le second degré. Voilà. pour accompagner les équipes, puisqu'on a un plan de formation d'ici 2027 de l'ensemble des acteurs de l'éducation nationale, donc les enseignants, et on essaiera aussi de faire les parents et les périscolaires. Nous avons des formateurs académiques, ce qui est mon cas. Nous sommes trois sur le département et nous avons formé, là, les deux années qui viennent de s'écouler, des cohortes, ce qu'on appelle, donc 50 personnes sur le département pour que chaque circonscription de la Sarthe puisse maintenant aller former les enseignants dans les écoles.
Ok. Et dans combien d'établissements vous intervenez ?
Alors, on se répartit les établissements. Donc, il y a 10 circonscriptions. Ça représente un peu plus de 2400, on va dire 2500 enseignants à former là d'ici 2027. Une grande partie a déjà été faite d'ailleurs.
Alors le programme phare fait aussi participer activement les élèves dans le second degré notamment. De quelle manière ?
Alors dans le second degré c'est un petit peu différent comme ils sont plus grands et que les problématiques sont des fois un peu plus ancrées, notamment on en parlera aussi à cause du cyberharcèlement. Ils ont la possibilité, eux, de mettre en place ce qu'on appelle des ambassadeurs ou des sentinelles, c'est-à-dire de former des élèves qui sont directement actifs dans les établissements et qui peuvent être le relais auprès des adultes et des fois dégonfler certaines situations.
Alors, je me tourne à présent vers vous, Sophie Loisance, qui avait aussi fait participer vos élèves dans le cadre de la lutte contre le harcèlement. Déjà, on peut rappeler que vous travaillez à l'école de l'hôpital. Alors, c'est-à-dire, qui sont les élèves de cette école, en fait ?
Alors, les élèves que nous accueillons dans l'unité d'enseignement du centre hospitalier du Mans, en fait, on les accueille de la petite section à 18 ans. Il y a plusieurs services concernés. Donc, on a le service de pédiatrie, où là, on a deux classes. La classe 1, qui accueille les enfants du CP à la 4e, 3e. Et la classe 2, qui accueille, en fait, les élèves de la 4e, 3e à 18 ans. Donc dans la classe 1, j'ai ma collègue Caroline Groux qui est là à plein temps. Et dans la classe 2, on a des professeurs qui viennent en heures supplémentaires, qui sont déjà dans un établissement d'origine et qui ont une discipline qu'ils enseignent et qu'ils viennent au centre hospitalier pour 2 ou 3 heures par semaine.
Alors pour quelles raisons est-ce que ces élèves sont là en fait, à l'école, à l'hôpital ?
Alors à l'école de l'hôpital, en fait, en pédiatrie, les élèves sont hospitalisés pour des raisons plutôt liés les troubles liés à l'adolescence, le mal-être, la dépression. Après, il y a tout ce qui est les troubles de l'anorexie. Ensuite, on a le service de chirurgie où là, on accueille les élèves qui subissent une opération chirurgicale ou qui sont mis en traction. Parfois qui sont là pour des raisons liées à une maladie chronique. Et on a également le service hôpital de jour, où là, on intervient aussi au chevet des élèves, donc dans leur chambre, et qui viennent ici pour des raisons plutôt liées à une maladie chronique ou une pathologie cancéreuse.
Et alors, est-ce que ces élèves, parfois, vous parlent de situations de harcèlement qu'ils ont pu vivre ?
Oui, bien sûr. Et dans tous les services. C'est pas uniquement lié au service de pédiatrie. C'est vraiment dans tous les services. C'est pour ça que c'est une des préoccupations importantes et la raison pour laquelle on a voulu travailler aussi autour du harcèlement.
Est-ce que le harcèlement, il se manifeste de la même manière, par exemple, en primaire, au collège, au lycée ?
On est bien conscient que le fait que l'âge des élèves ne soit pas le même, que c'est une période, le collège, mais c'est vrai aussi pour le lycée, où les interactions dans les groupes sont plus importantes, avec des notions, on n'a pas caractérisé le harcèlement, mais c'est trois notions importantes, hein, la violence, la répétitivité et souvent la mise à l'écart. On n'a pas trop ça dans le premier degré. Pas aussi marqué. Par contre, ça apparaît plus au collège et au lycée. Donc il y a des actions qui sont quand même plus importantes, avec des mesures plus importantes qui sont prises au regard des situations.
Alors vous avez participé, Sophie Loisance, avec vos élèves au prix Non au harcèlement, un prix national que vous avez remporté. Oui. Est-ce qu'on peut en dire plus sur ce prix ? En quoi est-ce qu'il consiste ?
Donc c'est un prix, on s'est inscrit en fait en début d'année scolaire. Il faut rendre les productions fin janvier, donc c'est pour ça qu'il faut commencer vraiment dès le début de l'année scolaire. Et on s'est inscrit, il faut produire en fait une affiche ou une vidéo avec les élèves. Donc nous, on a participé au prix interdegré, puisqu'on a des élèves de tous les âges et de tous les niveaux scolaires. Et nous, on a produit une affiche.
Et alors, qu'est-ce qu'elle mettait en avant, cette affiche ?
Donc, cette affiche mettait en avant le fait de ne pas être seul et de parler. Et on mettait en avant le numéro 3018.
D'accord. Numéro 3018 qui correspond à quoi, du coup ?
Donc, c'est le numéro qu'on appelle quand on est harcelé ou que même les parents peuvent appeler. Donc, je me tourne vers Pascal Montagne pour pouvoir avoir un peu plus d'informations précises.
C'est le numéro que vous pouvez joindre et à laquelle on est obligé de répondre. C'est-à-dire que la référente pour le premier degré ou le second degré répondra à votre demande. Cela dit, depuis quelques temps, dans le protocole, on ne l'a pas développé, mais on invite les parents d'abord à se tourner vers l'enseignante ou le directeur de l'école. Comme il y a eu déjà des équipes ressources de formés qui vont agir tout de suite. C'est beaucoup plus rapide. Mais effectivement, si on n'a pas été entendu ou si toutefois on n'ose pas aller voir à l'école, le numéro du 3018 et vous aurez une réponse tout de suite. C'est la plateforme dédiée.
Et alors Sophie Loison, ces élèves, comment vous les avez sentis dans cet effort pour dire non au harcèlement ? Est-ce qu'ils étaient motivés, unis dans ce travail-là ?
On les a trouvés vraiment unis dans ce travail, effectivement. En plus, c'est ce qu'on leur demandait, puisqu'on a travaillé avec différents partenaires et puis des élèves très différents, hein, puisque à l'hôpital, les élèves qui peuvent être là une semaine, la semaine suivante ne sont plus forcément là. Ceux qui viennent de manière régulière, on pouvait effectivement travailler un petit peu plus précisément avec eux. Mais derrière cette affiche-là qui a été conçue, il y a beaucoup, beaucoup d'élèves derrière et aussi tous les partenaires avec qui on a travaillé. Notre participation à ce prix, ce n'est pas seulement la création de l'affiche, mais c'est aussi tout un projet autour avec différents partenaires, comme je disais, comme le service jeunesse qui propose des interventions en milieu scolaire autour du harcèlement et du cyberharcèlement. On a travaillé aussi en lien avec Bertrand Moureau, qui est professeur d'histoire géo, et qui nous a aidés sur la thématique du harcèlement, surtout dans le second degré. On a travaillé aussi avec Gaël Lemoula, qui nous a apporté des ressources pédagogiques pour pouvoir travailler sur ce thème.
Alors, en récompense de leur travail, vos élèves ont pu se rendre à l'Élysée. Comment s'est déroulée cette visite ?
Alors déjà, on a pu emmener en fait une élève qui a participé à l'affiche. J'y suis allée avec ma collègue aussi, Caroline Groux. Cette journée, c'était quand même assez mémorable et un petit peu hors du temps parce qu'on ne s'attendait pas déjà à être reçue par le président de la République, sa femme et la ministre de l'Éducation à l'Élysée. Donc c'était une journée assez dense. Et en même temps, qui restera gravé, ça c'est sûr. Et j'espère aussi pour Maud qui nous a accompagnés que ça restera quelque chose d'important pour elle.
Pascal Montagne, quel est votre regard sur cette action ? Est-ce qu'il vous semble qu'il en faudrait davantage à l'école ?
Alors, justement, pour revenir sur trois temps forts qui sont mis en œuvre au niveau national. Donc vous avez effectivement le prix Noir Harcèlement qui se déroule d'octobre à janvier, effectivement. Vous avez une journée le 7 novembre qui est la journée de non-harcèlement qui invite les collègues des écoles à faire une action dans leur classe autour de la prévention, sous une forme ou une autre, un atelier. Le 11 février 2025, il y aura la journée du Safer Internet Day qui est spécifique au cyberharcèlement. Donc les collègues ne sont pas forcément tenus de faire ça ce jour-là, mais en règle générale, ils font une action dans le cadre des 10 heures qu'ils ont à donner à leurs élèves du CP au CM2 au titre de la prévention. J'insiste sur ce mot-là parce que pour moi, et c'est surtout l'enjeu qui est dans le premier degré, bien sûr, il faut traiter tout de suite, il faut que ça s'arrête la situation de harcèlement ou de mal-être, mais de façon générale, la prévention reste le meilleur levier. Et à ce propos-là, nous avons des actions de sensibilisation plutôt à la maternelle, autour de kits qui sont disponibles sur le site ministériel, des kits empathie, qui sont des activités clés en main à destination des enseignants. Nous avons des actions de prévention aussi du CP au CM2, donc ça peut être aussi les kits empathie, mais aussi tout le travail sur les compétences psychosociales. Et j'invite tous les acteurs, et notamment les parents, à les consulter s'ils le souhaitent. Vous avez sur le site de l'IREPS le cartable des compétences psychosociales qui leur permettra d'avoir des éléments de réponse ou de discussion avec leurs enfants autour de ces compétences.
Alors, vous dites qu'il faut traiter au plus tôt possible les cas de harcèlement, mais est-ce que c'est toujours possible? Comment on en repère les signes? Est-ce que les victimes parlent facilement?
Alors, la difficulté, elle peut être que la victime s'enferme, mais en règle générale, on a toujours quelqu'un dans l'école. Alors, ça peut être un camarade, dans le premier degré, c'est moins souvent le cas, un enseignant et surtout un parent qui se rend compte d'une problématique. Là, moi, j'invite tous les parents, effectivement, à discuter avec leur enfant, essayer de savoir un petit peu ce qui se passe, de les rassurer aussi si toutefois ils étaient maltraités, parce que ce n'est pas de leur faute, et d'aller tout de suite, effectivement, aller dans l'école, en parler à la directrice ou le directeur, qui mettra tout de suite en place le protocole, le jour même. On commence, on explique aux parents comment ça se déroule, comment ça va se dérouler, et on va faire en sorte que ça s'arrête, et que ça s'arrête dans la durée. C'est-à-dire que dans l'année, et voire même l'année d'après, on imagine aussi des entretiens de suivi avec l'enfant qui a été cible ou victime.
En tout cas, un type de harcèlement qui pourrait être effectivement très difficile à détecter puisqu'il ne se manifeste pas forcément physiquement, c'est le cyberharcèlement, vous l'avez évoqué. On se dit que les élèves du secondaire doivent davantage être concernés. Cependant, Pascal Montagne, est-ce qu'on constate du cyberharcèlement dans le primaire également, avec la généralisation de l'usage du téléphone portable, y compris par les plus jeunes?
Alors, généralisation, non. Effectivement, il y a une grande différence au niveau du collège. La plupart des élèves ont des moyens technologiques comme le portable. Mais on a quelques prémices quand même au premier degré, sous deux formes. Alors déjà, sur les réseaux sociaux, je rappelle en passant aux parents que légalement, c'est 15 ans. Et la deuxième chose, c'est qu'on a aussi à travers de certains jeux vidéo, je pense à LOL ou à WoW, où il y a des forums.
Ou World of Warcraft, c'est ça?
Tout à fait.
D'accord.
Et dans les forums, on a des enfants qui échangent des propos, vous savez, sur le coup de la colère d'avoir perdu, pas toujours, c'est très sympathique. On ne peut pas forcément tout de suite évoquer un harcèlement comme on peut l'imaginer, mais ce sont des prémices. C'est-à-dire que l'on se doit, et j'ai une collègue qui travaille en EMI, éducation aux médias et à l'information, qui travaille justement pour aller développer dans les écoles des interventions pour la sensibilisation aussi au comportement citoyen envers les réseaux sociaux.
Je vous remercie Sophie Loisance et Pascal Montagne d'être venus nous parler du harcèlement en milieu scolaire. Pascal Montagne, est-ce que vous pouvez nous rappeler les infos pratiques concernant le programme phare?
Alors, tout à fait. Donc, je redis le numéro 3018, qui est un numéro très important, qui est accessible à toute personne. Ça peut être les parents, mais ça peut être aussi un élève, un voisin. N'importe qui peut se saisir de ce numéro-là. Donc, pour un petit peu préciser comment ça se déroule le protocole, dès qu'un fait est signalé, donc on reçoit l'élève qu'on appelle l'élève cible, on peut l'appeler aussi l'élève victime, on essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe, quels sont les enjeux. Une fois qu'on a identifié un ou deux fauteurs de troubles, eh bien on va aussi les convoquer, mais ça peut être aussi des témoins de la situation, suivant ce qui a été dit, et on va organiser des petits temps très courts sur une méthode à l'origine qui vient de M. Picasse et qui a été revisité en France, des temps courts pour essayer, et c'est, je trouve ça très important, pour essayer de partager la préoccupation. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, quelle que soit la personne, le témoin, la cible ou le potentiel intimidateur, de lui dire, écoute, tel élève ne va pas bien, est-ce que tu as observé quelque chose? L'idée, c'est d'avoir sa préoccupation. Une fois qu'on a sa préoccupation, c'est de lui dire, toi, juste toi, à ta mesure, qu'est-ce que tu peux apporter pour améliorer la situation? Et ça fonctionne, je vous garantis, très très bien. Alors, on a toujours un ou deux cas où il faut plusieurs rendez-vous et plusieurs entretiens pour arriver à obtenir ou la préoccupation ou un début de solution. Mais ça fonctionne très très bien parce qu'à l'âge des élèves qui sont dans le premier degré, les élèves sont encore empathiques, naturellement. Donc ça les questionne. Ils le font dans les phénomènes de groupe, les phénomènes qu'on appelle harcèlement, encore une fois, pas tirer le parallèle forcément avec le monde des adultes, ils n'ont pas forcément cette volonté de faire mal, simplement d'exister dans un groupe. Donc très très vite, ils se rendent compte que si ça leur arrivait, ou qu'ils étaient concernés, eh bien, effectivement, ils n'agiraient pas comme ça. D'où l'intérêt de toute la prévention autour de l'empathie et du bien-être à l'école.
Je vous remercie Pascal Montagne et Sophie Loisance. Merci beaucoup d'être venus à notre antenne.
Merci de nous avoir reçus.
J'en profite également pour vous remercier de nous avoir invités, tout simplement parce que le harcèlement, pour moi, c'est l'affaire de tous. Et le fait d'avoir une diffusion d'informations le plus large possible, voilà. Donc merci.
Bien, merci à vous.
Merci aussi de nous avoir invités, d'avoir permis de montrer aussi qu'à l'hôpital, on peut travailler autour de ces projets et de cette thématique.
Mais merci beaucoup. À bientôt sur notre antenne. Merci.
Radio Alpa, l'alternative.
C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir écoutée. On se retrouve vendredi 11 octobre pour parler de théâtre avec Samuel Gallet qui représentera le Pays Innocent au Quinconce du 16 au 18 octobre. On présentera aussi le Théâtre du Passeur qui met en avant le patrimoine littéraire et le conte à travers des représentations de pièces du répertoire classique mais aussi des créations. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt sur notre antenne.
Radio Alpa, l'alternative.